Vous écoutez, on lit pour vous.
Faire tourner la roue. Un texte de Jules Faulkner-Leroux, paru le 28 mai 2024 dans la presse. Je ne suis pas un ayatollah du vélo, mettons. Très loin de ça, même. En fait, je n'en fais jamais. Pour preuve, cet achat de pandémie. Un vélo de montagne qui n'a jamais vu la montagne et qui amasse la poussière au sous-sol. Je me suis finalement résigné et l'ai mis en vente, avis aux intéressés. Mais je ne suis pas un cas si désespéré que ça. J'adore les deux roues, motorisées. Durant les dernières années, j'ai répété à qui voulait l'entendre que conduire une voiture, c'était comme assister à un film au cinéma, tandis que conduire une Vespa, c'était comme être dans le film. On sent l'air caresser la peau, on sent le doux parfum des bouquets de lilas, on sent le diesel du camion en avant de nous qui est arrêté non pas à la lumière rouge, mais dans un trafic monstre. Donc, ces temps-ci, avec la multiplication des chantiers et des détours, si je me promène en Vespa dans un film, ce serait plutôt dans un film post-apocalyptique où le monoxyde de carbone a remplacé l'air. Et on dirait que je n'ai plus trop envie de jouer dans ce film-là. L'autre chose qui m'énerve, même quand je me promène en Vespa plutôt qu'en minivan, famille oblige, c'est que lorsque j'arrive enfin à la lumière rouge, juste avant qu'elle ne devienne verte, un autre feu vert avec un petit pictogramme s'illumine et là, il y a genre 1000 vélos qui passent. Avant moi. Ben vierge. C'est eux autres les cyclistes qui jouent dans le film, master. C'est plus moi. Moi, je ne joue plus à rien et surtout, j'avance à rien. Un soir cette semaine, alors que ça m'avait pris un temps encore plus fou qu'à l'habitude pour rentrer à la maison, j'ai annoncé une nouvelle assez surprenante à ma blonde. Je me suis acheté un vélo. Non. Pas un vélo pour pédaler comme un malade pendant une heure avant mon quart de facteur. Un vélo électrique. Ce n'est pas pour faire de l'exercice. Je ne serai jamais un de ces adeptes de la mise en forme. C'est pour me rendre à la job. Point barre. Pour ça, puis pour passer au feu de circulation avant les voitures puis les Vespa. Je veux re-rentrer dans le film, OK? Je ne l'ai pas reçu encore, je l'attends. J'espère le recevoir et avoir le temps de le monter avant le 3 juin, journée internationale de la bicyclette. Alors, je sentirai peut-être que j'aurai participé à ma façon, une façon bien paresseuse, j'en conviens, à faire tourner la roue. Temps moyen pour me rendre au travail en véhicule motorisé, 1h03. Temps moyen pour me rendre au travail en bicyclette, 1h10. Temps pour me rendre au travail en bicyclette électrique, je le saurai bientôt. Mais parions que j'aurai envie de pédaler suffisamment pour battre le chrono d'un véhicule. Réduction de mes émissions de CO2 lorsque je prends mon vélo, 100%. Économie d'essence prévue d'ici au mois de septembre, environ 600 $. Coût d'un bon vélo électrique, 1 000 $. Argent de retour dans mes poches suite à la revente de mon vélo de montagne. Quelqu'un est intéressé? C'est vraiment chouette le vélo de montagne, je vous le jure. C'était « Faire tourner la roue », un texte de Jules Faulkner-Leroux, paru le 28 mai 2024 dans La Presse.
Costanza Spina, « L'amour révolutionnaire contre le fascisme », une entrevue réalisée par Manon Legrand, paru le 5 novembre 2024 dans Axel. Pour résister au fascisme qui ressurgit de l'ombre dans plusieurs pays du monde, Costanza Spina, journaliste queer, propose de pousser plus loin la démocratie en inventant un projet de société queer et féministe où chaque vie compte. Interview. C'est un livre dont on avait besoin. Manifeste pour une démocratie déviante. Amour queer face au fascisme. Premier essai de Costanza Spina, journaliste et fondatrice du média queer indépendant Manifesto 21, permet de réfléchir à la montée des extrêmes droites dans plusieurs pays du monde. Mais au-delà de cette effrayante photographie contemporaine, Costanza Spina imagine et esquisse avec radicalité et joie un projet démocratique déviant des routes autoritaires patriarcales et capitalistes, déviant des systèmes qui enferment, contrôlent, hiérarchisent et tuent. Contre la haine et les violences, Yael défend un projet démocratique, queer et féministe qui a pour moteur l'amour révolutionnaire. Divisé en deux parties, l'ouvrage, première publication des éditions féministes Trouble, nous invite à ouvrir les yeux sur le fascisme et sa continuité depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, en Italie, pays de naissance de l'auteurice, mais aussi en France, où Yael vit, tout en analysant comment ces régimes se construisent par la violence et l'exclusion. Dans la deuxième partie, Costanza Spina déploie des pistes intimes, politiques et spirituelles pour échafauder collectivement cette révolution romantique queer face au fascisme. Vous parlez de fascisme et non d'extrême droite. Pourquoi? Le terme extrême droite ne permet pas suffisamment de réaliser et de décrire ce que nous vivons. Je rejoins des historiens et historiennes en Italie qui défendent la thèse d'une continuité entre le régime de Mussolini, le fascisme historique, donc fondé en 1922 et terminé en 1945, et l'extrême droite italienne actuelle. Je partage cette idée que le fascisme ne s'arrête pas avec la mort du dictateur, qu'il se poursuit et change de forme. Il y a des appuis théoriques pour dire que l'extrême droite occidentale est fasciste. Elle se distingue par une absence d'apparat théorique, une haine des intellectuels, un populisme violent. Il y a aussi dans le fascisme une idée que la violence rend l'humain noble, qu'il faut purger l'humanité pour arriver à un bon gouvernement. Ces éléments qu'on observait dans le fascisme mussolinien, on les retrouve dans le populisme d'extrême droite contemporain. Toutes les conditions pour dire que l'extrême droite occidentale est fasciste me semblent réunies. Je vous invite à lire « Reconnaître le fascisme » d'Umberto Eco. Au lieu de devoir expliquer pourquoi l'extrême droite est fasciste, il faudrait qu'on nous explique pourquoi elle ne l'est pas. C'est une question sociologique sincère. Comment on peut ne pas nommer fascistes les descendants et descendantes assumés des fascistes? Quels sont les comportements fascistes aujourd'hui? Les violences policières contre les personnes racisées, la haine anti-arabe, l'offensive anti-trans, par exemple, ce sont des comportements fascistes au sens où ils établissent une hiérarchie entre les vies et considèrent que toutes les vies ne comptent pas, que certaines sont plus conformes que d'autres, que des personnes peuvent avoir des droits et d'autres non, que certaines vies sont dignes d'être pleurées et d'autres pas, comme c'est le cas en Palestine et au Liban aujourd'hui. La pensée fasciste fonctionne en créant des boucs émissaires, un ennemi intérieur à combattre. Aujourd'hui, les personnes issues de l'histoire coloniale et les personnes queer. J'utilise l'expression « démocratie déviante » précisément en réponse à la campagne électorale de Giorgia Meloni en 2022, actuelle première ministre en Italie, qui s'en prenait aux déviances de la jeunesse et traitait de déviants, déviantes, les personnes grosses, les LGBTQIA+, etc. Et c'est précisément pour cela qu'il faut que les femmes et les minorités queer, longtemps mises de côté dans les luttes antifascistes monopolisées par les hommes cis, s'emparent de l'histoire du fascisme, osent le penser, travaillent à le définir, puisque ce sont elles et eux qui en subissent les conséquences. Ces violences que vous citez peuvent aussi être exercées par des gouvernements de droite. Comment distinguer la droite et le fascisme? On observe en fait un glissement de la droite vers l'extrême droite. La droite républicaine, à partir de la présidence de Nicolas Sarkozy en France, a vraiment commencé à sortir du champ des droits humains, à flirter avec l'électorat d'extrême droite. Je pense notamment aux violences commises dans les banlieues ou aux propos qu'il a pu tenir en étant ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas non plus penser que le fascisme ne pourra pas prendre le pouvoir en étant élu. Il peut très bien être élu, voire même respecter un processus démocratique, comme ce fut le cas en Italie avec Meloni, pour arriver au pouvoir. Vous écoutez Costanza Spina, L'amour révolutionnaire contre le fascisme, une entrevue réalisée par Manon Legrand, parue le 5 novembre 2024 dans Axel. En quoi les amours queer sont un antidote face au fascisme? Quand je parle d'amour, je ne parle ni d'amour romantique, ni du sentiment amoureux. Je considère l'amour comme une force sociale qui nous permet d'agir avec, pour objectif, la joie et le respect des vies. Les amours queer ont donc un objectif de réparation et d'inclusion. Les pensées queer féministes et décoloniales constituent un puissant antidote au fascisme, dans le sens où elles nous apprennent à aimer, à prendre soin, à élaborer la justice autrement, à ne pas avoir peur, à penser le collectif et à construire plutôt qu'à détruire. C'est l'opposé de ce que nous servent les discours d'extrême droite aujourd'hui, ce que j'appelle les amours queer de façon un peu englobante. Ce sont des projets politiques allant vers le courage et le changement, pas vers la réclusion et la terreur du monde. Comment construire ce front queer féministe et décolonial? Je suis convaincue que les valeurs portées aujourd'hui par les communautés queer et féministes sont essentielles pour repenser nos modèles politiques. Néanmoins, je l'avoue, je me sens découragée quelquefois par nos façons de lutter et de nous organiser. Je constate un niveau important de conflictualité et de critique interne qui, parfois, nous blesse et met à mal la stratégie politique. J'espère que nous irons vers des communautés queer et féministes réellement anti-punitives, où l'on tolère la maladresse, la divergence, le doute, où l'on met au ban un certain moralisme. En cela, je partage la pensée de Sarah Schulman, qui considère qu'aucune lutte n'a jamais triomphé en se battant pour l'uniformisation, en essayant qu'on soit toutes et tous d'accord. Parfois, on peut adopter une manière de voir le monde très Instagram, basée sur notre algorithme, et on s'attend à ce que la société soit à notre image. En ne voulant s'adresser sur le front politique qu'aux personnes qui sont concernées au millimètre près par nos propres expériences, on finit par s'éloigner et ne plus réussir à dialoguer, à regarder l'autre. Attention, je ne dis pas que la non-mixité n'est pas importante. Elle est essentielle même. Mais là, je parle de l'organisation d'un front. Pensons aux structures. Si l'on construit un front de gauche, peu importe où, est-ce que celui-ci peut vraiment fonctionner dans la verticalité du pouvoir? Est-ce que nous pouvons vraiment nous présenter aux prochaines élections françaises avec comme candidat de la gauche un homme blanc cis, hétéro, qui a fait son temps et qui a une pratique du pouvoir ultra-centralisé? En Italie, la nouvelle leader de la gauche est Elie Schlein, une femme socialiste qui a la trentaine, juive, bisexuelle, qui a ouvertement soutenu Gaza. Elle a très bien réussi aux élections européennes, notamment dans le sud pauvre et exploité du pays. J'estime que l'Italie trouve souvent des bons antidotes à ses propres démons. Ce n'est pas parfait, mais c'est un très bon début face à Giorgia Meloni. Comment et surtout à partir d'où se relier alors? Je rejoins Fanny Souad-Sau, artiste basée à Marseille, quand elle dit que « nos alliés ne sont pas forcément des gens qui vivent très loin de chez nous, mais nos voisins, nos voisines. Ce sont avec eux et elles qu'il faut composer la lutte et faire la révolution romantique de nos pratiques. » La militante antiraciste Fatima Wasak, autrice de « Pour une écologie pirate », a également beaucoup écrit sur la force des luttes locales et la nécessité de bâtir des formes concrètes d'organisation pour combattre les oppressions. Il s'agit d'une vision pragmatique. Avec qui je vais en soirée, à qui je donne mon argent, comment je rends cet espace plus habitable. Les luttes se perdent parfois trop dans la théorie. Il faut pouvoir sortir des livres, voir le monde en vrai, se réinscrire dans le réel. Mais l'écriture peut aussi être une résistance. C'est votre cas? J'ai toujours écrit, donc je ne me suis jamais vraiment posé cette question comme cela. Je n'ai jamais non plus demandé la permission pour le faire. Mais en général, oui, l'écriture est aujourd'hui un moyen de résistance face au monopole médiatique de droite. Il s'agit d'une bataille quotidienne éprouvante, car la presse queer et féministe est précaire. Je ne sais pas si ça va aller en s'améliorant. Les médias queer et féministes sont des armes antifascistes, car ils permettent de faire remonter des idées afin qu'elles soient mises à l'agenda politique. C'est leur rôle. Le problème est que nous n'avons pas réussi à faire comprendre à ma génération, celle née dans les années 1990, l'importance des médias. Les gens préfèrent les influenceurs, influenceuses isolées, les récits héroïques, messianiques. Or, je crois qu'on ne peut pas combattre le fascisme uniquement sur Instagram en espérant qu'arrivent des personnes providentielles. Vous publiez en janvier, avec l'aide de Trouble Éditions, à l'occasion des 10 ans du Média Manifesto 21, que vous avez fondé un recueil collectif de textes inédits intitulé « Comment s'aimer quand c'est la fin du monde? Pourquoi avoir à nouveau choisi l'amour? » Si on a autant parlé d'amour ces dernières années, ce n'est pas tant pour guérir nos relations intimes que pour répondre à nos peurs. L'amour, d'ailleurs, n'oblitère pas la colère. Des autrices comme Bell Hooks ont écrit à ce sujet. C'est ça qui nous a amenés à publier « Comment s'aimer quand c'est la fin du monde ». On se questionnait sur le thème de la réparation ou de l'irréparable, sur comment faire communauté et aller de l'avant face à la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. On a besoin d'écritures légères, de récits apaisants et d'utopies nouvelles connectées aux réalités matérielles. C'était Costanza Spina, L'amour révolutionnaire contre le fascisme, une entrevue réalisée par Manon Legrand, parue le 5 novembre 2024 dans Axel.
Nos fantômes d'amour, une chronique de Vanessa Bell, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Sans même les chercher, des fantômes se sont présentés à moi à travers mes lectures d'été. J'ai eu envie de les rassembler, d'en faire une collection qui, je l'espère, vous sera d'heureuse compagnie. La seule chose qui compte vraiment. Il y a des voix, des présences, avec lesquelles il faut apprendre à vivre une fois que nous les avons rencontrées. La première fois où j'ai entendu Luc-Antoine Chiasson lire, j'ai su que je vivrais désormais avec lui. De scène en revue, j'ai attendu son premier recueil, puis le deuxième. Ils se sont avérés être exactement ce que j'espérais. Une preuve consignée de son talent fulgurant pour déceler la splendeur de ce qui est sobre. La grande maison en bardeau rouge qui grince la nuit fait entendre le roulement des vagues de l'Acadie et la mélancolie de Wolfe à même ses ressacs. Ce livre est un lieu de résurrection répétée où tendresse et mouvement se subsistent aux exils. Ici, la mer rythme la vie, les écrits. Entre les heures à écouter le vent fouetter les drapeaux, à rénover le plancher centenaire de la maison et à repeindre le bardeau loge la certitude d'appartenir. À une lignée, à une communauté. Car s'il signe le livre de son nom, des paroles y fusent de toutes parts, doit enlacer aux mots du poète. S'éveillent alors les œuvres de Guy Arsenault, d'Hélène Arbeck, de Serge-Patrice Thibaudeau. On entend en écho la lente famille de Lois de Cravant, les souffles de Benoît Chaput, de Sean Cotton, d'Hermine Ortega, avant de reprendre la route vers l'est pour s'assoupir dans les bras de Jonathan Roy, de Sonia Malaborza. De ces allers-retours entre Montréal et Caraquet naissent des poèmes vrais où une mer se cache dans le bruissement des oiseaux. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est aussi peut-être la seule chose qui compte vraiment. 80 mg de nuages. Yeux lourds, bras alanguis, syllabes qui s'étirent. Rien n'échappe à la vigilance de l'enfant qui se tient en équilibre entre la soif d'un parent et les murs de la maison. Avec « La soif est un champ de bataille », Mélanie Boilard propose un titre aussi doux que lucide. Le récit d'une histoire que plusieurs connaissent par cœur. Comment s'inventer une adolescence entre les bouteilles? Qui permettra de déposer ses émotions? Quelle amitié fera office de refuge entre les affrontements? Car il s'agit bien ici de s'armer pour une guerre perdue d'avance, de s'engager sur un champ de bataille qui devient la vie. Coupable est l'adulte, colère est l'enfant. Il faut de la contenance pour ne pas s'échapper soi-même. Des deux adversaires, l'un doit tenir bon, garder les horaires, survivre au combat. Citation. Je reconnais au milieu de ma grasse matinée le son de la caisse de 24 sur la table, 24 bombes sur le plancher, entre ma mère et moi, 24 détonations. Dans ma poitrine. Fin de citation. Passe les nuits où ravaler sa peine, compter ses morts. Adviennent les excuses molles, celles qui ne pensent rien. Dans la recherche d'un rythme commun, la mère et l'enfant s'inventent des clairières de silence où la trêve est fragile. Ne rien dire par peur de rompre la sobriété, ne rien dire comme on chanterait une prière. La poésie de Boilard s'inscrit en filiation avec celle d'Erika Soucy. Toutes deux écrivent des livres réparateurs où la poésie berce l'enfant que nous demeurons une vie entière. Un tapis est un chemin, est un jardin. S'il existe un ravissement perpétuel, c'est bien l'écriture aérienne de François Turcot qui, ici, s'enracine au dehors, au jardin, ou est-ce dans l'horizon qu'est demain? Septième titre en poésie pour cet auteur primé, les pas fantômes s'inscrivent résolument en continuité avec l'arc philosophique et narratif qui marque l'œuvre de celui sachant capter le battement du vivant. Avec ses voyages botaniques, Turcot marie le Québec au Moyen-Orient par l'incantation des fleurs et des plantes qui dessinent des constellations de sens entre ici et ailleurs. En motif irrégulier, la présence de A rend tangible la magie des floraisons. S'ajoutent à celle-ci les voix amies qui énoncent des vérités comme on guide une main. Jardiner, c'est se projeter dans un avenir incertain. Je ne sais pas ce que je retiens de ces jardins des disparitions, sinon la certitude après lecture d'exister dans la pulsation qui s'accorde au monde de l'infiniment petit. En interrogeant l'angle du ciel, François Turcot réussit, une fois de plus, à lier l'ultra-réel à la pensée dans un mouvement à peine perceptible, qui ne se traduit que par la poésie. Un livre à lire comme on étire la mise en dormance du jardin. Pour retenir où entre ses mains ou pour le parcourir comme un sentier inédit. Les pas fantômes nous conduisent là où la lumière cuivrée éclabousse les récoltes. L'amour prend une marche dans la ville fantôme. Je n'ai pas rêvé, c'est arrivé. Je voudrais, à mon tour, écrire une lettre à celle qui offre ces lignes. Une lettre grandiose qui décrirait comment ce livre, ce discours amoureux à propos de soi, de l'autre, de l'impossibilité de, est une lecture salvatrice pour qui s'effondre. Je voudrais y dire qu'il m'a mise en état d'écriture, en état d'ouverture. Dans cette lettre, j'écrirai une banalité renversante. J'écrirai combien lire un écho de ce qui nous traverse aide à mieux accueillir, à mieux réfléchir. Je n'ai pas rêvé, c'est arrivé. De page en page, cette incantation est répétée jusqu'à rompre ce qui s'invente en soi quand l'autre se dérobe. Chaque minute, s'efforcer de ne pas penser au deuil. Chaque minute, écrire le deuil. Avec « Les étoiles se sont rapprochées », second recueil de l'autrice également romancière et essayiste, Mylène Bouchard propose une poésie épistolaire dont le destinataire est multiple. Dès son ouverture, des vérités nues forcent l'admiration. Il n'existe en ce lieu aucun endroit où se cacher. Le rythme suit la douleur de la main qui écrit. Le texte se construit en équilibre sous le signe du courage de celle qui s'affronte. Un élan à peine perceptible entre l'amour et l'écriture. Après tout, écrire et aimer ne sont-ils pas la même chose? C'était « Nos fantômes d'amour », une chronique de Vanessa Bell, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.